j'ai plutôt l'intention de te présenter Samuel Tremblay-Michaud. Salut, bon matin.
Bon matin, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu le connais-tu, Joe?
On s'est déjà vu, oui. Okay. On s'est vu cet été.
Oui.
Samuel a travaillé beaucoup sur les ondes de boulevard cet été, puis je travaillais ici à week-end. Mais on s'était vu, t'étais venu en studio.
Je suis venu pas plus tard que il y a quelques semaines.
Mais j'étais pas là, c'est Laurence qui était là.
C'est ça.
C'est ça. Mais auparavant, tu étais venu, je t'avais
oui.
déjà croisé.
Oui. Ah, oui.
Est-ce que chroniqueur automobile, c'est un bon titre ou...
Oui, absolument. Maintenant aussi, on dit journaliste automobile.
Oh!
J'ai eu mes étoiles de journaliste officiellement. Donc,
t'as ton badge.
J'ai ma badge.
Je le sais que quand on t'a eu une des premières fois, tu nous as dit, c'est un rêve de jeunesse, hein?
Ah, c'était mon rêve de TQ, de faire ça. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai fait mes études en conséquence de ça. J'ai toujours cru à ce projet-là. Puis aujourd'hui, ben, j'essaie des chars. C'est mon travail. Puis j'en suis extrêmement
heureux. J'essaie des chars.
Ah oui, je suis vraiment très content de faire ça dans ma vie. Là. J'ai toujours voulu l'atteindre. C'est pas évident. C'est un peu comme jouer au hockey. Hein, ouais. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place là-dedans. Mais j'ai réussi à me tricoter une place. Puis les astres se sont alignés à quelque part, j'imagine. Mais je suis très, très reconnaissant de faire ça aujourd'hui.
Ton engouement et ton excitation ressemblent à celle de Gab quand il a présenté le match des Kings. Au centre Vidéotron, oui. Il présentait des joueurs de la LNH, oui. Mais il se rappelait dans le temps qu'il présentait du Pee-Wee à l'aréna de Saint-Augustin, tu sais.
Ah oui, j'ai fait mes petites vidéos sur YouTube avec mon téléphone un bout de temps, j'y faisais des petites chroniques à radio, j'y croyais, je travaillais à côté aussi dans d'autres travails, puis j'essaie d'avancer là-dedans pour me rendre aujourd'hui faire ce temps plein pour l'équipe d'RPM, je suis vraiment très content, vraiment.
Bon, là, écoute, c'est deux sujets d'actualité des dernières semaines qu'on a gardés, on voulait aller en onde avec. Mais on s'est dit, on va arrêter à lire la nouvelle, tu sais, on pourra pas en parler davantage. Fait que je vais commencer avec le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est une date butoir, c'est la fin des subventions gouvernementales concernant les véhicules électriques.
C'est la diminution des rabais qu'on va avoir sur les véhicules électriques parce qu'on veut se rendre jusqu'en 2027, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on va couper tranquillement les subventions. Là, on va couper d'une première poire à 3 000 $. Donc, la subvention sur les véhicules pleinement électriques est à 7 000 $ actuellement, va tomber à 4 000 $ dès le 1er janvier 2025. L'idée, c'est de ralentir un peu les subventions pour que le marché réussisse à amener par lui-même des véhicules plus abordables dans le domaine du véhicule électrique. Il faut savoir aussi que les véhicules hybrides avaient également accès à des subventions. On va aussi les diminuer. Là, donc, au lieu de 5 000 $, on va tomber à 2 000 $ de subvention. Donc, pour l'année prochaine, il va encore rester quelques dollars de disponibles offerts par le gouvernement. Puis ensuite, l'idée, c'est qu'en 2026, là, on va encore diminuer pour arriver à une fin des subventions.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'étais comme... Mais c'est comme pas... Tu sais, les prix des véhicules électriques, c'est pas tout le monde qui peut se permettre
exactement.
Ça sert à quoi d'enlever les subventions? Mais là, tu viens de répondre comme quoi ça va forcer l'industrie à créer des véhicules plus accessibles financièrement.
Oui, c'est un peu audacieux de croire que le Québec a le pouvoir de faire changer les constructeurs automobiles mondiaux. Là, c'est un peu audacieux de penser ça. Mais il faut savoir qu'on n'est pas les seuls non plus à le faire. Il y a d'autres pays dans le monde également qui ont pris le même genre de mesures. On sait qu'il y a d'autres États également qui ont fait ça aux États-Unis aussi. Donc, l'idée, c'est de venir forcer le marché à avoir des véhicules plus adaptés. On fait partie de l'équation. On n'est pas que les seuls chevaliers à vouloir se battre là, pour réussir à faire ça. Donc, j'ai hâte de voir un peu où est-ce qu'on va aller parce que c'est vraiment le nerf de la guerre actuellement, au-delà de l'autonomie. Parce que vite, on se rend compte qu'on parcourt moins de kilomètres qu'on pense. Là. Souvent, les gens conduisent des voitures électriques puis se disent « Moi, j'ai besoin de faire 500 km par jour avec mon véhicule », mais le trois quarts du monde font à peu près 30 km.
Oui, c'est ça.
Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir autant d'autonomie qu'ils pensent. Outre encore le réseau de recharge, le prix est vraiment un frein parce que ça reste des véhicules qui sont plus dispendieux à acheter. Souvent, j'aime dire aussi, vivre un véhicule électrique, c'est de vivre une expérience technologique, c'est de vivre une expérience de conduite qui est différente, mais c'est pas toujours économique pour tout le monde. Tu sais, des fois, on a la bonne vieille argumentaire. « Ouais, mais je vais sauver du gaz. » Ouais, mais si ton véhicule te coûte à peu près 30 000 de plus que ce que tu aurais mis habituellement...
Ça va prendre du gaz pas mal.
Ça va prendre pas mal de kilométrage avant d'y arriver. Là,
puis j'ai une question pendant qu'on parle de véhicule électrique. Là. Mettons que quelqu'un magasine une voiture actuellement ou qui vient de l'acheter ou qui va l'acheter, là,
ouais.
Puis qui s'achète une voiture au gaz... Le 1er janvier 2025, va-tu être 30 ans en cours? Va-tu faire du temps en dedans? Tu sais, c'est parce qu'au banc des accusés, il y a le gaz, ça n'a pas de sens.
Non, mais puis tu sais, il y a beaucoup de jeunes un peu partout qui parlent de ce mix énergétique-là qui va être important. On peut pas se dire demain matin qu'on va juste dire tout le monde est en voiture électrique non plus. On sait que le réseau de recharge sera pas capable de subvenir à ce besoin-là. Donc, ça nous prend des alternatives également autour de ça. On parle aussi de véhicules à prolongation d'autonomie de plus en plus, des véhicules qui vont être électriques, mais qui vont avoir une génératrice à à gaz à l'intérieur qui, elle, va générer de l'énergie pour la batterie. Donc, plus besoin de se connecter à la maison. On va faire le plein encore d'essence. Et on peut faire un genre de 1000 km, consommer 2 litres ou 100 km à peu près d'essence et réussir à prendre la route. Donc, on voit qu'il y a plein de mix là-dedans qui va rentrer. On essaie de varier les types de combustion qu'on va avoir. Maintenant, l'énergie électrique est clairement une voie pour l'écologie. On va le mettre de l'avant-plan, c'est clair et net. Mais le gaz ne sera pas non plus... ça ne sera pas le banner des accusés.
Okay,
non,
Samuel Tremblay-Michaud est journaliste automobile.
Ça fait drôle.
Ouais, ça fait drôle. Hein?
Hey, profite de ça, c'est malade. J'adore.
Dis-moi, l'autre nouvelle d'actualité, c'est une pénurie à venir dans le domaine de l'auto-usagé. Il y aurait moins de véhicules disponibles parce qu'on garderait nos chars plus longtemps.
Oui, puis on le voyait venir un peu aussi avec la pandémie. Mmh. Tu sais, je vous rappelle que dans la pandémie, ça a été compliqué d'avoir accès à des voitures, point barre. Les voitures neuves étaient en pénurie. On a eu des problèmes avec les semi-conducteurs qu'on parlait, des espèces de puces électroniques dans la construction des véhicules. Il y a eu moins de voitures de fait. Et ce que ça a amené, c'est qu'on a acheté aussi moins de véhicules parce qu'il y en avait moins disponibles. Donc là, si on fait le 3-4 ans plus tard, habituellement, c'est le cycle que les gens changent leur véhicule, bien, il y en a moins en circulation. Il y a moins de gens aussi qui retournent des locations dans les concessionnaires, donc on a moins accès à une flotte de véhicules d'occasion également. Ça amène aussi que les prix des voitures ont continué à augmenter énormément. Tu sais, la valeur moyenne d'achat en 2019 était autour de 18 000. On est à 35 000 maintenant dans le véhicule d'occasion, là, en moyenne d'achat. Là.
Donc,
on a vraiment augmenté beaucoup la valeur des véhicules. Donc, il y a des gens aussi qui disent, ben là, à ce prix-là, je vais juste garder mon véhicule plus longtemps. Je suis le premier à le dire. Il y a des gens qui ont acheté des véhicules avec des bons taux de financement dans le coin de la pandémie, justement, où est-ce qu'à la fin de leur retour de location, ils sont avantagés de racheter leur véhicule parce qu'il vaut plus cher sur le marché de l'occasion que qu'est-ce qu'il leur reste à payer. Donc, je suis le premier à leur dire, gardez votre voiture. Donc, en voyant cette espèce d'équation-là, bien là, il y a des gens qui, effectivement, des concessionnaires qui ont de moins en moins accès à une flotte de véhicules. Ça risque pas de stabiliser les prix dans l'occasion. On parle d'une stabilisation autour de 2027-2028 à peu près. Mais d'ici ce temps-là, ça se peut effectivement qu'il y a encore des prix gonflés dans l'occasion.
Fait que, dans le fond, si je fais un petit peu de millage sur ce que tu dis, plus que jamais, la voiture neuve que tu as achetée ou d'occasion presque neuve, que tu entretiens comme il faut, que tu t'assures d'avoir la garantie adéquate et ou prolongée, ça vaut la peine de garder ton char en shape, finir de le payer, puis de faire un bout avec.
Absolument. Dans le meilleur des scénarios, je pense que c'est ça. Après ça, si on se dit tous ça, bien là, on ne réussira pas à remettre la voiture d'occasion sur le marché de l'occasion, mais le marché se réajustera. Au bout de la ligne, il y avait trop de voitures par tête d'habitants disponibles dans l'occasion aussi, donc maintenant, on arrivera simplement à un équilibre différent. Puis l'idée aussi, bien, ça va être d'améliorer toujours les prix. Moi, je travaille pour vous autres. Là. Mon but, c'est d'avoir des prix d'occasion qui ont plus d'allure aussi. Donc maintenant, il faut que l'offre et la demande deviennent intéressantes. Puis si, bien, il y a moins de monde qui court après des voitures d'occasion, bien, veut pas y avoir une compétition dans le prix aussi de la voiture d'occasion. Donc là, vous allez revoir la force de l'achat aussi.
Mais les concessionnaires peuvent être quand même assez persuasifs là, parce qu'ils veulent la racheter ta voiture pour... des fois, ça devient difficile de faire un calcul. Ça vaut-tu la peine que je le garde?
Je suis là-dedans. J'ai acheté ma voiture en février 2020. Fait que janvier 2025, c'est mon dernier paiement de char. C'est là.
Ça vaut la peine.
Parce qu'un paiement de char, là, tu sais, justement, ça vaut-tu la peine que j'aille vers Benon? Parce que moi, j'aurais plus de paiement de char à faire. Puis j'ai pas des gros paiements de char, là, si on compare les prix d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Mais ça reste qu'un terme par mois que je n'ai plus à faire. Ça fait une grosse différence dans le budget. Là.
Avec un char top shape. C'est
oui,
ça, surtout.
Il y a ça qui est là. Puis, tu sais, en même temps, si des fois les concessionnaires sont agressifs dans leurs offres, qui ont des bonnes offres à vous faire, puis qu'au bout de la ligne, ça vous satisfait au niveau de la garantie. Souvent, les gens aiment ça avoir des voitures garanties pour pas avoir d'entretien à payer ou quoi que ce soit. Et qu'au bout de la ligne, lorsque vous regardez les mesures de chiffres, vous dites ah, bien, dans le fond, je suis gagnant quelque part là-dedans parce qu'il me donne une bonne valeur de rachat pour mon véhicule. Je suis capable de me refinancer quelque chose qui répond à mes budgets. Les taux d'intérêt commencent à diminuer aussi. Donc, si au bout de la ligne, vous arrivez à une bonne formule, ça peut devenir intéressant d'accepter l'offre également si ça vous tente de vivre un véhicule neuf.
Tu sais, on fait beaucoup de marde, nous autres, hein, mais on fait du bien. Puis tu sais quoi? Le fait de se questionner, de dire on invite Sam ou on le fait nous-mêmes, le micro, je pense que c'est dans nos bonnes décisions.
Oui, bravo la gang!
En équipe, là, c'est dans nos bonnes décisions.
Bravo nous! Bravo nous!
Samuel Tremblay-Michaud, deux choses. Bravo pour être journaliste automobile, ton rêve de petit cul.
Ah, je suis vraiment content.
Puis deux, tu vas revenir, c'est sûr et certain.
Ben, ça va me faire plaisir vraiment beaucoup. Puis d'ici ce temps-là, rpmweb.ca, je suis sur cette plateforme-là tout le temps. Donc, venez me parler, venez m'écrire, c'est toujours le fun.
Merci Sam, bon matin à toi.